Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Pour cette deuxième édition du week-end enregistrée à Nantes, dans l'ouest de la France, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes, initiative de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, nous allons parler de l'Iran. Avec cette question, le président iranien Hassan Rouhani sera-t-il l'artisan de la réconciliation avec l'Ouest ? New York a été le théâtre cette semaine d'un véritable ballet diplomatique autour du président iranien, en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, dominée par la crise irako-syrienne. L'année dernière, sur le chemin de l'aéroport, Hassan Rouhani avait reçu un coup de fil du président américain. Un événement alors que les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis plus de 30 ans. Cette année, on est, semble-t-il, monté d'un cran avec notamment cette rencontre historique entre le Premier ministre britannique et le président iranien. Rencontre qui, après 3 ans de crise, confirme le réchauffement des relations entre les deux pays qui devrait conduire à la prochaine réouverture de l'ambassade britannique à Téhéran. En attendant, toujours à New York, la tension s'est également portée sur les pourparlers nucléaires réunissant l'Iran et les puissances du 5+1, États-Unis, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine et Allemagne. Où en est-on avec l'Iran ? Nos invités. Fariba Ashtroudi, journaliste et écrivain iranienne, fondatrice de l'association Mohsen Ashtroudi, association culturelle et humanitaire, auteur de plusieurs ouvrages dont Le Colonel et l'APA 455 chez Albin Michel et le recueil Abyss au chèvrefeuille étoilé. Bonjour Fariba Ashtroudi.
Bonjour.
Azadeh Kian, professeur de sociologie politique à l'université Paris Diderot Paris 7 et chercheur au CNRS, co-directrice de Le Moyen-Orient en mouvement aux éditions Kimé. Bonjour.
Bonjour.
Et François Nicoulot, analyste de politique internationale, ancien ambassadeur de France à Téhéran, auteur de nombreux articles dans la presse française et étrangère sur l'Iran, la non-prolifération et les sanctions internationales. Bonjour.
Bonjour.
L'Iran peut-il contribuer à une solution en Syrie et en Irak ? François Nicolau.
Oui, manifestement, il peut contribuer parce que c'est un pays majeur de la région. Notons quand même qu'il ne fait pas partie de la coalition internationale. Il a été écarté de cette coalition. Les Français voulaient l'inviter à la réunion de Paris, à la conférence de Paris, mais les pays du Golfe et en soutien aux pays du Golfe, les États-Unis, ont préféré que l'Iran ne vienne pas. Et du coup, les Iraniens ont expliqué qu'ils n'avaient jamais eu envie de venir à cette réunion. Mais sans appartenir à la coalition, ils jouent quand même un rôle déterminant parce que ils ont fixé eux-mêmes le sens de leur intervention. C'est les seuls qui peuvent intervenir sur le terrain, qui ont pris le risque déjà d'envoyer des troupes sur le terrain. À un moment, il y a une ville assez proche de la frontière iranienne qui a été investie par Daesh, le fameux État islamique. Eh bien, les Iraniens n'ont pas hésité à envoyer une colonne de chars, envoyer des troupes pour les déloger de cet endroit-là. Donc, ils ont fixé des lignes rouges et pas d'atteinte, évidemment, aux frontières de l'Iran. Et puis, alors d'un point de vue symbolique, quand même très important, Daesh ne doit pas toucher au lieu saint du chiisme, au lieu où se trouvent les grands tombeaux d'imams. On pense évidemment à Najaf, à Karbala et à Samarra. Voilà.
Daesh, l'organisation de l'État islamique, Azadeh Kian.
Tout à fait, je partage ce constat. Donc les gardiens de la révolution, en particulier la branche extérieure des gardiens, l'armée Al-Quds, est déjà sur place, au moins depuis le mois de juin. On a vu aussi effectivement le chef de cette armée aux côtés des chiites irakiens, mais aussi des Kurdes irakiens, lorsque la ville dont parlait Monsieur Nicolo a été libérée des mains de Daesh. En même temps, l'Iran est visiblement le premier, bien avant les Occidentaux, à avoir aussi donné des armes aux Kurdes irakiens, avec lesquels d'ailleurs l'Iran entretient de très bonnes relations, pour se battre contre Daesh. Donc l'Iran, effectivement, est le seul des pays de la région à non seulement avoir accepté, bien avant la coalition, d'intervenir dans la région, mais à une armée très forte par rapport, par exemple, à l'Arabie Saoudite, là où on doute que l'Arabie Saoudite puisse effectivement envoyer ses soldats sur le sol ou alors se battre de façon, disons, efficace hein, contre Daesh. Mais en même temps, effectivement, on constate que l'Iran n'a pas été invité. Mais les Iraniens ne voulaient pas non plus, à mon sens, participer à la coalition sous le commandement américain. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas non plus insisté, mais la raison principale étant qu'effectivement, les Saoudiens en particulier était contre la participation de l'Iran à cette coalition. Donc oui, je pense que les Iraniens peuvent effectivement contribuer à trouver, comme vous dites, une solution dans le cas à la fois de la crise actuelle, le conflit actuel en Irak et en Syrie, sachant que visiblement ils seraient très contre le renversement de Bachar al-Assad et ce qui se passe paradoxalement actuellement à cause de Daesh, donc l'État islamique, c'est à la fois le renforcement visiblement de Bachar al-Assad et donc ça va tout à fait dans le sens voulu par les Iraniens et je pense que là ils ont effectivement des atouts supplémentaires pour négocier avec les États-Unis.
Alors, on va revenir bien évidemment sur ce qui se joue pour l'Iran par rapport à l'organisation l'État islamique et quelques mots aussi sur l'état des lieux de la relation États-Unis-Iran. Fariba Ashtroudi, vous voulez rajouter quelque chose à ce qu'on...
Rajouter, non, c'est effectivement le constat basique. Je rajouterais simplement de dire que cet état de lieu ne date pas d'aujourd'hui. L'armée de Rhodes, qui est effectivement l'armée qui est sous le commandement direct du guide suprême, depuis des années connaît cette région comme sa poche. C'est une armée qui a été présente pendant des années. Donc c'est une armée incontournable pour effectivement arriver à une solution. Et beaucoup d'observateurs, aussi bien dans les pays arabes qu'en Occident, ont nommé Qassem Soleimani, qui est le commandant en chef de cette armée, à juste titre, comme l'homme le plus puissant du Moyen-Orient.
Pour l'instant, François Nicolas, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce qui se joue pour l'Iran par rapport justement à l'organisation de l'État islamique ?
Ce qui se joue pour l'Iran, quand même, c'est son rétablissement dans une position dans la région, si vous voulez. Au fond, l'influence naturelle de l'Iran a été comprimée par toute une longue période d'hostilité des pays de la région à son égard, sans doute à juste titre d'ailleurs, par les sanctions, par toute la politique également des Occidentaux à son égard. Et l'Iran considère qu'il n'occupe pas la place qui lui revient naturellement dans cette région. À travers le cas irakien et le cas syrien également, l'Iran espère effectivement retrouver cette position. Il ne la retrouvera pas de façon conflictuelle. Il va de soi que l'Iran doit composer aussi avec les... Et d'ailleurs, il y est prêt avec les autres pays de la région, avec les pays du Golfe. Voilà, la relation a repris avec l'Arabie Saoudite. Bon, l'Iran a bien dit, les dirigeants iraniens ont bien dit à quel point les pays du Golfe, les Occidentaux, les Américains étaient responsables de la situation actuelle. Finalement, sans les Américains, sans le financement par les pays du Golfe, des mouvements djihadistes, on n'en serait certainement pas là. Mais en même temps, et voilà, ils sont généreux, donc ils sont prêts à passer l'éponge et à dire que pour la reconstruction, il faut travailler ensemble. Et de fait, effectivement, ils tendent la main à l'Arabie Saoudite. Et effectivement, il est clair qu'il n'y aura pas de solution d'apaisement dans la région sans un accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et il ne suffit pas des Occidentaux, de la volonté occidentale. On a bien vu que même la puissance américaine a ses limites. Il faut qu'il y ait un investissement des pays de la région qui se mettent d'accord sur l'apaisement de leur propre région.
Fariba Ashtroudi.
Justement, l'énorme problème, et je pense que M. Nicolo le sait très bien, parfaitement, c'est que l'Iran n'a pas une seule voix. Il y a le gouvernement. Il y a la voix du guide suprême qui, lui, décide de la politique étrangère de l'Iran.
Alors justement,
ayant les gardiens de... Non, mais évidemment, ayant les gardiens de la révolution, et notamment l'armée de Rhodes, qui ne dépend que de lui, Qassem Soleimani est vraiment un des très proches, et idéologiquement, c'est quelqu'un qui croit en le guide suprême. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble de l'armée, aussi bien de l'armée des gardiens de la révolution et de l'armée régulière, même si l'armée régulière a été extrêmement amoindrie depuis la révolution. Donc là, c'est un énorme problème. Et là où, effectivement, le gouvernement voudrait très pragmatiquement revenir à la table des négociations, aussi bien avec les autres pays arabes que l'Arabie saoudite, et parler de façon pragmatique et de façon géopolitique, il y a un problème idéologique derrière. Il ne faut pas oublier, je le redis à chaque fois, que l'ayatollah Khomeini, donc le père de la révolution, avait dit haut et fort, un jour je tendrai peut-être la main au grand Satan, l'Amérique, mais jamais à l'Arabie saoudite. Et là, c'est un problème idéologique qui se pose, et du leadership de l'islam Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Je ne pense pas que la politique seule... Alors, il y a les rapports de force, il y a effectivement l'Occident, mais il y a le fait de savoir où va-t-on vers ce leadership de l'islam. Et est-ce que, effectivement, les jusqu'au-boutistes des deux côtés, et il y a des jusqu'au-boutistes en Iran, hélas, et ils ont une capacité de nuisance énorme, ne vont pas faire capoter beaucoup de choses. Et je terminerai juste sur une phrase, si vous le permettez. C'est que, dans tout ça, il y a la population iranienne également. Et qui compte énormément. C'est-à-dire que là, en ce moment, même aujourd'hui, c'est un peu mon dada, j'en parle tous les jours, j'en parlais hier à monsieur l'ambassadeur, un mollah, donc un exégète du Coran qui pendant 2 ans était traîné dans les officines du judiciaire, et on pensait qu'il n'allait jamais être, il était condamné à mort pour, alors, entendez bien, insulte au prophète Jonas. Il a été exécuté. Et ça, ce sont des choses qui m'inquiètent beaucoup sur le plan intérieur. Alors, on parlera peut-être du plan intérieur, mais il n'y a pas que la géopolitique internationale qui compte. Il y a la population iranienne
alors,
qui compte.
Le
Rouhani qui a donné tant d'espoir à la population iranienne, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire?
Alors, Azadikian, je me tourne vers vous. Ce que j'entends, moi, de ce que vient de dire Fariba Ashtroudi, c'est qu'il y a des grands courants et finalement, la politique du président iranien Hassan Rouhani n'est pas forcément partagée par le guide suprême et la population au milieu. Alors, finalement, vers quoi se dirige-t-on?
Écoutez, oui, effectivement, il y a le régime islamique d'Iran est un régime factionnel, ça date pas d'aujourd'hui, depuis le début de la révolution, ces factions effectivement existent se rivalisent. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces factions néanmoins sont d'accord pour que l'Iran puisse retrouver sa place sur l'échiquier régional et international.
Alors d'abord régional et international
guide,
ensuite,
bien sûr.
Ou tout en même temps.
Tout en même temps, d'ailleurs, c'est ce qu'on constate et d'ailleurs le guide est très d'accord avec disons cette volonté de l'ensemble des acteurs politiques iraniens. Et donc, on est très loin. Fariba a raison. Bon, Khomeini, mais ça, c'est au début de la révolution. Khomeini
n'a
rien à faire avec ou à voir avec l'Arabie saoudite. Il s'agissait d'une rivalité entre le leadership du monde chiite et le monde sunnite, etc. On est très loin maintenant de cette situation. Et d'ailleurs, ce sont les Iraniens qui ont fait avec Rafsanjani, souvenez-vous, après le décès de Khomeini et dès la fin de la guerre Iran-Irak, Rafsanjani, qui était au pouvoir, a envoyé ses émissaires en Arabie Saoudite, a essayé de normaliser avec les Saoudiens. Ensuite, sous le gouvernement de Khatami, pendant 8 ans, les relations se sont beaucoup améliorées. Les relations se sont détériorées pendant Ahmadinejad et de nouveau commencent à améliorer sous Rouhani, qui a envoyé encore récemment un émissaire en Arabie Saoudite. Le problème, c'est que les Saoudiens ne sont pas d'accord pour le moment, c'est-à-dire qu'ils ont mis des conditions, ils ont posé des conditions afin de pouvoir aller un jour vers la normalisation des relations
et
avec l'Iran.
Et ces conditions ?
Bah, la Syrie par exemple, que l'Iran ne soutienne pas par exemple les chiites au Bahreïn ou les chiites au Yémen, etc. Donc,
c'est une lutte entre chiites et sunnites.
C'est une lutte tout à fait politique. Il ne faut pas confessionnaliser un conflit éminemment politique de leadership régional. Entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais la religion est instrumentalisée effectivement dans la mesure où la sphère d'influence de l'Iran est très importante aussi en Irak, et tout comme les Saoudiens qui effectivement à leur tour tentent par exemple d'instrumentaliser les sunnites iraniens, mais ça n'a pas fonctionné puisque l'Iran effectivement, contrairement par exemple à l'Irak, ne date pas des années 1920. L'Iran existe depuis, comme vous le savez, des millénaires, et les minorités ethniques et religieuses qui font partie de l'Iran sont là depuis de longues siècle aussi, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a une approche, à mon sens, beaucoup, beaucoup plus rationnelle qu'avant, de la part des autorités iraniennes. Le guide Khamenei est d'accord, et il a déclaré publiquement qu'il était d'accord pour que l'Iran et les États-Unis puissent s'entendre sur les questions politiques. Là où il n'est pas d'accord et il ne fait pas confiance aux Américains, c'est sur le nucléaire. Il dit attendons voir. Mais par exemple, pour se battre contre Daesh, il n'est pas du tout contre éventuellement une collaboration de l'Iran, par exemple, avec les États-Unis. Je voudrais juste ajouter que si on regarde effectivement la géographie de la région. On constate que l'Iran partage plus de 450 km de frontières communes avec l'Irak et plus de 850-900 avec à l'est, avec le Pakistan et l'Afghanistan. Les gens de Daesh ne sont pas que actuellement en Syrie et en Irak, mais aussi en Afghanistan, mais aussi au Pakistan et ailleurs. Et donc, les frontières iraniennes sont aussi menacées par l'existence de Daesh. Donc, l'Iran aussi a intérêt à ce qu'il y ait une sorte de protection commune à l'échelle internationale contre Daesh. Donc, voilà, je pense que effectivement, on va... Les raisons pour qu'on puisse espérer une collaboration entre l'Iran et les pays de la région existent bel et bien.
Alors, la question, François Nicolau, je me tourne vers vous avec l'Arabie Saoudite. Elle semble effectivement épineuse de ce que j'entends. En tout cas, les choses ont bougé ces derniers mois. J'ai presque envie de dire, depuis l'accord intérimaire de Genève sur le nucléaire en novembre 2013, qui a permis finalement l'établissement progressif d'une certaine détente avec Oman, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis. Donc tout cela à l'exception encore de l'Arabie Saoudite. C'est cela qu'il faut comprendre aussi.
Non, même avec l'Arabie Saoudite, on est quand même dans le début d'une détente. Hein. Les Iraniens ont fait beaucoup de gestes en direction de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont méfiants. Hein. Ils gardent quand même de très mauvais souvenirs, en effet, des débuts de la révolution islamique où manifestement la révolution naissante, hein, conduite par Khomeini, a essayé de déstabiliser l'Arabie Saoudite et l'ensemble de la péninsule arabique. Et ceci a duré jusque dans les années 90 au moins, hein, et peut-être même jusqu'au tout début des années 2000. C'est une période révolue, mais encore faut-il que les Saoudiens en soient bien convaincus. Les Saoudiens restent encore très nerveux sur la question du nucléaire. Voilà, donc il y a un gros effort qui est fait par Rouhani, qui a une bonne relation avec l'Arabie Saoudite. Dans le temps, déjà, il avait des contacts là-bas. Je pense qu'ils ont relativement confiance en lui. Je pense que ça va dans le bon sens. Très franchement, je suis optimiste sur la question du nucléaire. On en reparlera. Oui. Je suis peut-être légèrement moins optimiste, mais oui, voilà.
Ça. Alors justement, pour éviter d'entamer cette question, parce que on n'aura pas assez de la première partie pour le faire, quelques mots en revanche sur le degré de rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Hors nucléaire, Farid Ashtroudi.
Je pense qu'ils sont tous deux prêts à reprendre des relations. C'est évident. Mais le prix à payer, tout le problème est là. Vraiment, je vais dans le sens de... C'est le prix. Les Iraniens ne reculeront pas. On n'est pas là pour dire oui ou non, bien que je suis contre le nucléaire partout. Mais effectivement, je ne pense pas que la bombe nucléaire iranienne soit plus dangereuse que la bombe nucléaire pakistanaise. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis. Donc, mais là-dessus... Aucun des deux ne veulent reculer. Et c'est un problème épineux. Il y a autre chose juste sur l'Arabie Saoudite que je voulais dire, c'est que, et je reviens sur la population iranienne, les Saoudiens n'ont pas simplement peur de la puissance de l'Iran, les Saoudiens ont également peur de cette société civile iranienne. Vous allez en Iran, vous
qui
voyez là...
Qui est particulièrement active, c'est
mais
cela.
Très active et qui se bat pour la citoyenneté et qui, ne parlons pas en plus entre la culture, la modernité, l'Iran a été propulsé dans la modernité. C'est loin... C'est pas le cas de tous les pays, j'allais dire, de la région. Tout ça fait peur, malgré le fait qu'il y ait encore chape de plomb sur des tas de choses en Iran. Et Rouhani essaye, lui, il a compris. Pour redonner la place que l'Iran mérite dans le monde, il faudrait redonner la voix à la population. Ça, il l'a compris. Alors qu'il ne le veuille pas, je me fiche de ce qui se passe dans sa tête. Le politique qu'il est, je suis en train de dire, effectivement, là, il a compris qu'il doit s'appuyer sur cette société civile. Maintenant, est-ce qu'on va le laisser ou pas? Parce que des deux côtés, on a peur, vous comprenez? Parce que si ça s'ouvre, je veux dire, l'Iran est prêt à beaucoup de choses. L'Iran prendra une puissance, Rouhani a dit au début, que l'Iran, d'ici quelques temps, économiquement, ça va être la grande puissance de la région. Il en est capable, voilà.
Quelques mots pour finir et rebondir sur l'introduction de l'émission, pour poursuivre avec la question du rapprochement hypothétique, en tout cas, voilà, en pointillé avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer un partage des rôles entre Britanniques et Américains, Azadeh Kian, très rapidement, cette rencontre cette semaine entre le Premier ministre britannique Cameron avec le président iranien?
Partage des rôles dans quel sens? C'est-à-dire que les relations entre l'Iran et la Grande-Bretagne n'ont pas été rompues après la révolution, mais très récemment, en 2010, si ma mémoire est bonne, une fois que l'énergie de Hezbollah en Iran a attaqué l'ambassade britannique. Sinon, les relations étaient assez cordiales entre les deux pays, tandis qu'avec les États-Unis, vraiment, ça remonte à en novembre 79, la prise d'otages, etc. Et donc, disons que les problèmes sont beaucoup plus plus important avec les États-Unis, mais il est clair que la Grande-Bretagne est le pays européen le plus proche, bien évidemment, des États-Unis, et donc le rapprochement entre l'Iran et la Grande-Bretagne peut effectivement contribuer à un rapprochement aussi un jour avec l'Iran et les États-Unis.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Azadeh Kian, Fariba Ajtroudi et François Nicolau dans quelques instants. À tout de suite.